Nous sommes en janvier 2017 et vous écoutez l'épisode 93 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et je suis avec toujours ma comparse de débat, Paul Gara. Salut Paul Gara.
Bonjour Dédé, bonne année à toi.
Puisque du coup, merci.
C'est la première, merci à toi, première présentation de l'année. Donc on sacrifie au petit rituel.
Voilà, et bonne année à nos auditeurs.
Exactement, bonne année à tous. Une année placée sous le signe du jeu, j'en suis sûre.
Bien sûr.
Mais pas des finances, mais bon, ça c'est autre chose. Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et aussi merci à la famille Blue pour son don en nature.
Alors on va commencer tout de suite avec des commentaires sur nos derniers épisodes, en particulier sur le 92. Donc on va finir rapidement avec la polémique féministe qu'on a eue, dont on a beaucoup parlé au dernier épisode.
Oui, qui a donné lieu à beaucoup de commentaires et de réponses de notre part.
Voilà. Et donc là, Lucas qui nous dit, vu les réactions dans les commentaires de l'épisode 91, on comprend bien pourquoi ce genre de chronique a bien raison de soulever le débat. Donc voilà, ça, il est content qu'on soulève le débat.
Ouais.
Et à ce compte-là, donc on avait parlé de la Fédération française de Scrabble. Et
oui.
Donc toi, tu as contacté la Fédération.
Bah oui, on s'était un peu engagé, nous tenons nos promesses. Donc on a écrit, on a fait un petit mail à la Fédération française de Scrabble pour leur poser la question de savoir quels étaient les nouveaux mots, enfin qui pouvaient les mots féminisés, notamment sur les professions féminisées qu'ils acceptaient. Et donc on a quand même eu une réponse de Florian Lévy, qui est le président du comité de rédaction de l'Officiel du Scrabble et le vice-président de la Fédération internationale du Scrabble francophone, donc qui a pris quand même la peine de répondre
et qui nous c'est pas rien quand même. Hein.
Non, c'est pas rien. Et vraiment, on le remercie d'avoir pris le temps de répondre et super vite. Hein, donc il nous expliquait que dans sa réponse, il nous expliquait que donc de nombreux féminins comme auteur, autrice, mais aussi armatrice, armurière, assureuse, ont été récemment admis par l'Officiel du Scrabble et qui cette admission traduisait une grande tendance à la féminisation de nombreux noms de métiers où les femmes sont également représentées afin de traduire une réalité. Donc lui, il faisait une distinction avec l'écriture inclusive. Hein, pour lui, c'était un peu un autre sujet. Mais donc pour le Scrabble, il n'y a pas de souci. Hein, on peut mettre autrice autant qu'on veut. Donc, même si ça choque un peu les oreilles, il faut s'y faire. On peut faire beaucoup de points, peut-être.
Ouais,
quoique,
peut-être.
Il faudrait trouver des professions avec des W, c'est mieux, mais... Dragonnière, ouais. Peut-être, je ne sais pas si dragonnière, c'est...
Ouais, mais c'est sûr, ils n'ont pas fait encore les petits points pour mettre l'écriture inclusive.
Non.
Pour mettre avant les... Il faut qu'ils refassent des petites lettres.
Je ne sais pas si tu as le droit de combiner le masculin et le féminin dans le même mot avec les points pour faire des... Enfin, justement, pour marquer des points. Ouais,
je crois ouais.
Il faut que tu fasses un choix quand tu poses tes lettres. Hein, tu choisis entre le masculin et le féminin. Et peut-être que l'emportera sur le masculin dans les choix.
Oui, si tu mets auteur avec un E, t'as placé un E en plus, tu vois.
Oui. Ah oui, donc forcément, c'est
ça
mieux.
Ça te fait 7 lettres et ça fait Scrabble. Alors que si tu mets que auteur, ça te fait que 6 lettres et tu perds les 50 points du Scrabble.
Mm.
Ben, voilà. Comme quoi, ça a du bon de féminiser les...
Les professions.
Les professions.
Voilà, et je pense qu'on arrête. Hein. On n'en parle plus.
On va arrêter là.
On va faire des mécontents sinon. Mais on est un peu provocateurs, on pouvait pas s'en empêcher.
Voilà, retrouvez-nous sur notre prochain podcast, inclusive podcast.
Voilà.
Mais donc on a par contre une nouvelle chronique qui fait débat, parce qu'on aime bien un peu provoquer les
esprits.
Les auditeurs, voilà. Et donc c'est la chronique Si le jeu m'était compté, qui... Alors... Elle reçoit un accueil très divers. Il y a certains qui n'aiment pas du tout, genre Alex Godlex, qui dit que lui, il aime pas, mais que il doit dire, bon, il nous dit que certains doivent aimer. Et donc Grovast lui a répondu dans les commentaires que voilà, lui, il appréciait plutôt le côté
mise en scène, ouais, voilà.
Voilà, que c'est pas forcément son truc, il vient pas pour ça, mais il l'écoute avec bienveillance, il nous dit.
Oui, en fait, je pense que ce qu'il reprochait, enfin, Alex Godlex n'aime pas, c'est que je pense que lui, dans les chroniques, il recherche plutôt vraiment des enfin, je comprends qu'il recherche plutôt des choses qui sont vraiment des présentations peut-être plus classiques, ce que je comprends tout à fait, voilà, factuelles, ou qu'il éclaire beaucoup plus sur les mécaniques de jeu. Alors qu'il est vrai que la chronique Si le jeu m'était compté, l'idée, c'est pas du tout cet angle-là. Enfin, il traite pas du tout les jeux sous cet angle-là. C'est plutôt un voyage dans l'univers du jeu pour que, ben, finalement, on ait une idée de toute la thématique.
De l'ambiance, ouais.
Voilà, de l'ambiance dans laquelle on va se plonger. Il est pas du tout, on comprend bien les grandes mécaniques du jeu, mais on rentre pas dans des, plus de détails. Enfin, on n'a pas plus de résumés, c'est pas un résumé très très précis de comment va fonctionner le jeu. Et enfin, ce qui est pas mal, c'est qu'on est quand même, il y a 6, 7, 8 chroniques par mois. Et c'est vrai que si on les fait toutes pareilles, bah, je sais pas si ça serait peut-être aussi un peu lassant pour les oreilles.
Ça change un peu, quoi.
Voilà, c'est la variété aussi que nous, on aime proposer dans le traitement, dans les types de jeux, dans les personnalités des chroniqueurs et aussi dans la manière de traiter les chroniques. Parce que si on fait tous la même chose, on s'ennuiera un peu vite, peut-être. Donc, Si le jeu m'était compté, donc une chronique qui a ses détracteurs, mais aussi ses fervents supporters.
Oui.
On avait également Grovast, bien sûr, comme tu l'as dit, mais aussi Twin, hein, qui aime beaucoup la chronique et qui trouve que c'est vraiment excellent.
C'est excellent, voilà. Il dit que c'est excellent, donc c'est sympa. C'est sympa comme que les auditeurs entre eux viennent réagir dans les commentaires et on voit que les avis divergent.
Exactement. Et Twin avait également noté, bon, ça n'a plus de rapport avec si le jeu m'était compté, qu'il a bien aimé découvrir l'idée du Misty Gris des habilleurs. Ah. Et il dit que ça changeait du Tigre, Euphrate et Feuilleur. Je pense que c'est pas tout à fait le même délire, mais.
Ouais, c'est un peu plus rapide quand même, hein, voilà. C'est sûr, si on veut.
C'est straight to the goal, quoi, avec Misty. C'est pour les gens pressés.
Voilà, c'est sûr que si on doit faire 50 tigres Euphrate, ça.
Ouais, enfin, en même temps.
Ça va devenir long, quoi.
Ou alors, il faut commencer par décider qu'on ne joue qu'en sous-vêtements. Comme ça, bon, 2-3 parties, c'est fini, et hop, on peut y aller.
Ou bien, on joue par tranche de dizaines de points qu'on gagne. C'est,
ouais. Oui, ça peut être une idée aussi.
C'est peut-être plutôt comme ça. Parce que faire beaucoup de parties de Tigre Eufrate, ça risque de prendre du temps. Et Grovast revenait aussi sur la chronique du Pion Fesseur.
Oui, qui nous parlait de Topiary.
Voilà, qui nous parlait de Topiary et des jeux à ligne de vue. Et on vous envoie donc sur le billet pour voir ce commentaire, avec entre autres Cyrus aussi qui a réagi par rapport au jeu dont Grovast nous parle, qui utilise aussi le mécanisme des lignes de vue.
Et pour terminer sur ces retours, sur ces commentaires, bah, on remercie tous les commentaires qui apprécient notre duo. Voilà, donc c'est...
Lucas qui nous a dit en début, qu'on a cité en début, qui aime bien notre duo, quoi.
Voilà, et qui se demande quand même quel est notre score à l'éthylotest quand on enregistre. Et
voilà. Alors, je voudrais préciser qu'on ne boit pas pendant l'enregistrement. On boit tout avant, mais pendant, on boit pas.
On boit aussi après, forcément, pour se remettre de nos émotions.
Voilà.
Mais non, nous sommes sobres, donc on te laisse imaginer, Lucas, l'état dans lequel ce serait si on était, si on avait picolé avant.
Non, mais on est des gens raisonnables, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Et on boit avec modération.
Mais c'est surtout qu'à notre âge, on peut plus, mais je ne peux plus.
On tient plus l'alcool, c'est ça.
Bah, et à un moment, les conséquences sont trop lourdes à payer.
Ah. Sans transition, on va passer sur vos sorties du mois, où aller à un prochain festival qui s'annonce. C'est le festival Happy Games, C'est le plus grand festival de jeux de plateau en Alsace, ils disent.
Donc, comme de par hasard en Alsace.
Voilà, comme de bien sûr, mais c'est pour ça que je suis informé en premier. Donc, alors bon, être le plus grand d'Alsace, c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup, mais. Mais il y a quand même, alors ils nous disent 7000 mètres carrés, c'est pas mal. Bon, c'est 10 fois moins que Essen, mais on y arrivera, quoi. Parce qu'ils ont cette année 1000 mètres carrés de plus. Donc, ça se passe au parc des expositions de Mulhouse. Et ce sera du 23 au 25 mars 2018. Donc vous avez encore le temps de réserver votre TGV pour venir à Mulhouse.
Et donc pour tes fans, ils pourront te rencontrer sur place ?
Oui, peut-être que j'irai faire un tour.
Avec un t-shirt proxy jeu.
Oui, bien sûr. Et un micro proxy jeu. Donc on vous laissera le lien vers leur site si vous voulez en savoir un peu plus sur les jeux présents et les éditeurs présents. Et du coup, on va enchaîner sur nos chroniques. Alors, on commence comme habituellement avec les plateaux numériques.
Oui, avec Cyrus ce mois-ci qui s'y colle.
Voilà, et qui va nous parler de Vendredi. C'est son jour préféré, je crois.
Bah, c'est un peu le jour préféré de tout le monde.
De tout le monde.
Surtout le vendredi soir, hein, plus que le... Parce que le vendredi matin est souvent dur. Le réveil ouais. est de plus en plus difficile. Et là, heureusement que tu as l'espoir du vendredi soir.
Mais faut que tu arrêtes les soirées étudiantes le jeudi soir, hein, pour si tes vendredis sont difficiles.
C'est ça. Mais non, parce qu'en général, le jeudi, tu dis « Oh, c'est pas grave, demain, c'est vendredi, donc tu peux... » Le jeudi, tu fais toujours des... Voilà, tu fais des entorses que tu regrettes aussi, comme les abus d'alcool, d'ailleurs. Mais je pense que c'est pas du tout ce vendredi-là auquel il faisait...
Non, c'est le vendredi de Robinson. Bah, on va l'écouter, nous en parler tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Cyrus et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode des plateaux numériques. Aujourd'hui, avec un peu de chance, nous sommes vendredi, jour de diffusion des podcasts, et je vais vous parler justement de Vendredi. Alors Vendredi, c'est un jeu de Friedman Friese qui est illustré par... Alors, vous avez suivi ? Normalement, si vous connaissez les jeux de Friedman Friese, vous devriez avoir la réponse. Et oui, c'est Harald Liske, mais il y a un petit piège, parce qu'il n'est pas tout seul cette fois-ci. Il a travaillé avec Marcel André Casazola Merkel. Donc, ils ont été à deux pour illustrer ce jeu. Vendredi, c'est un jeu qui est paru pour la première fois chez 2F Spiele, évidemment, en 2011. Et il est sorti la même année en France chez Philosophia. C'est un jeu qui est réapparu l'année dernière sous la marque Edge, après donc la disparition de Philosophia. Vendredi est un jeu qui vous plonge dans la peau de Vendredi, qui voit débouler un certain Robinson Crusoe sur son île. Afin de retrouver la paix, vous allez tenter d'aider Robinson à s'échapper de votre belle île déserte que vous affectionnez tant. Mais voilà, mais le mec s'est clairement emboulé, alors ça va pas être très simple. Alors Vendredi, c'est effectivement un jeu qui n'est pas évident. Il a la particularité, alors il a deux particularités, en fait c'est un jeu de deck building en solo. Donc la première particularité, c'est d'être un jeu solo. La deuxième particularité, c'est que c'est un jeu qui est très technique, avec un niveau de difficulté certain qui va nécessiter donc d'opérer beaucoup de choix et des sacrifices pour pouvoir remporter la partie. Donc c'est là que c'est pas forcément évident, il y a vraiment beaucoup de technicité dans ce jeu, et c'est vraiment au bout de plusieurs parties que vous allez réussir à remporter une partie. Et il y a un système de score, et vous vous rendrez compte que sur les premières parties, et ben, vous allez faire des scores assez minables, et puis il va falloir vraiment vous améliorer, trouver un petit peu les trucs dans le jeu qui vont faire que vous allez réussir à gagner. Évidemment, le jeu n'est pas dépourvu de hasard parce que c'est un deck building qui est soumis à une pioche et donc l'ordre des cartes a son importance. Le portage maintenant. Donc, c'est un jeu qui a été porté par Brettspielwelt sur iOS et Android en juin 2017. Donc, Brettspielwelt, c'est un éditeur qui a porté également Ligretto par le passé. Le jeu est disponible au tarif de 4,49€ sur iOS et 3,99€ sur Android. Parlons donc de la prise en main du jeu. Alors le jeu est disponible en deux langues, l'anglais et l'allemand. Bah oui, évidemment. Du coup, bah pas de français. Alors passons au tutoriel. Bah il y en a pas. Allons voir les règles. Bah, c'est les règles du jeu physique. Donc, 14 pages, hein, pas moins. Je vous avoue, moi, j'ai jamais joué au jeu physique. J'ai découvert le jeu avec l'application. Et bah, du coup, j'étais hyper refroidi par les 14 pages en anglais. Voilà, j'arrive à lire l'anglais, mais je suis pas super fluent, comme on dit. Et du coup, ça m'a bien refroidi. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que je suis allé découvrir le jeu en jouant. Donc, chose pas forcément aisée. Et en fait, pour tout vous avouer, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait une aide contextuelle. Donc, j'ai appris à jouer sans l'aide contextuelle. Alors, du coup, je sais pas vraiment jusqu'où elle est capable de vous aider, cette aide contextuelle. Toujours est-il qu'elle existe. Sincèrement, ça remplacera pas un vrai tutoriel, mais elle a le mérite d'expliquer un petit peu les situations auxquelles vous êtes confrontés. Donc, si vous vous lancez dans ce jeu, je vous conseille quand même d'aller utiliser l'aide contextuelle. Pas faire comme moi. Parlons maintenant des modes de jeu. Eh bien, il y a un mode de jeu solo. Et oui, bah, il y a que ça, du coup, puisque c'est un jeu solo. Ouais, je sais, cette chronique va être un petit peu absurde. Donc effectivement juste un mode solo, mais l'éditeur a pensé à un truc que je trouve vraiment sympa. C'est le KOI, alors je sais pas si on appelle ça vraiment comme ça, KOI. C'est un mode qu'ils appellent le King of Highland. En fait, c'est un système de tournoi qui a lieu régulièrement et qui va permettre aux joueurs de s'affronter en fait à travers le monde dans un mode de jeu type duplicate. Je ne sais pas si vous connaissez ce mode de jeu. Donc duplicate, c'est je sais que c'est utilisé au Scrabble par exemple, c'est-à-dire que on a tous les joueurs vont partir avec la même donne. Donc là, en l'occurrence, dans ce jeu, tout le monde va partir avec le même enchaînement de cartes de départ. Alors évidemment, comme c'est un système de deck building, il y a des moments où on va remélanger la pioche. Donc là, ça redevient aléatoire. Et puis les cartes que vous aurez ramassées sont évidemment différentes. Voilà, donc le set de départ, en tout cas, la donne de départ, elle est identique. Et ensuite, charge aux joueurs de se distinguer. Donc c'est un système de tournoi en deux contre, enfin un contre un. Donc c'est deux joueurs à chaque fois qui s'affrontent. Et puis les meilleurs arrivent en finale, et donc c'est le meilleur à la fin qui gagne. Sur le système de score donc que j'expliquais vaguement en introduction. D'ailleurs, quand on observe les classements du KOI, on se rend compte que on retrouve les mêmes joueurs. Donc c'est bien le signe que le jeu est vraiment technique, puisque quand on a cette technicité, on arrive à se hisser régulièrement dans le haut du classement. Alors, en ce qui concerne les autres fonctionnalités, une petite particularité, il n'y a pas de distinction entre la musique et les effets sonores. Alors, ça peut paraître con comme ça, mais en fait, c'est assez dommage, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Autrement, on trouve des achievements. Alors, j'en ai regardé quelques-uns, il y en a qui sont effectivement... Bon, il y a toujours dans les achievements des trucs bien corsés, mais là, il y en a qui ont l'air vraiment, vraiment bien, bien corsés, quoi. Du style, bah, remporter plusieurs fois le KOI, des choses comme ça. Enfin bon, vous vous doutez que vous n'allez pas réussir à faire ça rapidement. Et puis, il y a une fonctionnalité que je trouvais assez originale. Pour être noté, c'est qu'il existe un mode gaucher. Alors ça va me permettre de faire la transition avec la partie ergonomie du jeu. L'application elle est plutôt faite pour être jouée sur mobile. Moi j'y joue sur ma tablette, mais on voit bien que bah voilà, le jeu est tenu à la verticale, et donc il est plutôt fait pour être joué sur mobile. Je peux pas vous dire ce que ça donne concrètement en termes de taille d'écran. Il y a assez peu d'infos sur les cartes, donc je pense que c'est largement jouable. Et donc ce mode gaucher, il est prévu effectivement pour ceux qui sont plutôt adeptes du pouce gauche que du pouce droit. Donc il y a certains boutons qui sont inversés sur l'écran pour permettre une accessibilité plus rapide. Voilà, donc c'est assez intéressant je trouve pour être noté. Petit détail amusant donc qui me permet de rebondir sur les effets sonores et la musique dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a une petite musique qui est assez... Bah, un petit peu comme toutes les musiques de ces jeux, hein. Assez horripilante au bout d'un moment, mais il y a un truc qui est sympa, c'est que lorsque vous réussissez à obtenir le compte de nombre de points pour battre une carte, en gros le principe c'est de battre des cartes et donc d'obtenir une somme, enfin une certaine valeur minimale pour battre la carte. Et donc quand vous atteignez cette valeur là, il y a un petit bip. Il y a un son, on va dire, qui retentit, et il n'y a pas d'équivalent visuel en fait. Du coup, ça, vous n'avez cette info que si vous utilisez effectivement cette fonctionnalité, enfin le son. Ce qui fait que je joue régulièrement avec le son finalement. Du coup, bah, c'est un peu dommage de pas avoir permis de dissocier la musique et les effets sonores, parce que finalement, moi, il y a guère que les effets sonores que je trouve intéressants. Et à côté de ça, ils les ont associés, mais ils n'ont pas prévu un petit signal visuel pour montrer effectivement quand vous atteignez ce fameux seuil dans le jeu. Voilà, bon, un petit bémol à ce niveau-là. Après, sur le reste de l'ergonomie, il faut avouer que il n'y a pas de fioriture. Hein. Franchement, Bridge Speed Duel est allé à l'essentiel. Donc ça marche, mais c'est pas fou. Du coup, en conclusion, on est quand même assez loin des meilleurs portages que j'ai pu essayer. Sincèrement, je pense que seul votre amour pour le jeu est l'atout majeur d'avoir le jeu du coup toujours sur vous, qui occupe très peu de place. Hein. Seul en fait ces éléments-là vont vous inciter à acquérir le jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, si en plus vous n'êtes pas à l'aise en anglais, franchement, c'est pas la peine de passer votre chemin. Ou alors, si vraiment vous voulez découvrir le jeu, essayez d'acquérir les règles en français à minima, parce que sincèrement, le jeu est pas évident. Et après 20 ou 30 parties, il a fallu que j'aille quand même dans les règles pour aller trouver certains points, pour comprendre des choses qui se passaient que j'arrivais pas à comprendre dans le jeu en ayant joué comme ça sans regarder l'aide contextuelle, etc. Donc Vendredi, c'est un jeu intéressant, mais sincèrement, le portage, il y a vraiment des choses à améliorer. Si vous êtes un adepte du jeu, allez-y. Pour le Koi, je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir se confronter à des joueurs de par le monde et voir un petit peu les scores qu'on peut trouver. Vous allez voir que c'est assez hallucinant. Au-delà de ça, je vous recommanderai d'autres jeux qu'on a pu chroniquer par ailleurs, bien avant celui-ci. Ah, ce sera tout pour cette chronique. Je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, d'ici le prochain vendredi, jouez bien.
Alors merci Cyrus pour cette chronique. Donc à réserver aux fans du jeu, ou si vous parlez bien anglais ou allemand, parce que les règles en allemand c'est pas toujours facile. On va enchaîner sur la chronique si le jeu m'était compté.
Attention là, hein, ouf.
Attention, donc on va être transporté dans un autre univers. Donc si passez 5 minutes si vous n'avez pas cette chronique. Dans quel univers on va être transporté, Paul Gara, ce mois-ci ?
Eh bien, ce mois-ci, ça va être plus... ça va vous rappeler une certaine émission de télé-réalité, voilà. Puisqu'on va évoquer le jeu Galerapagos. Donc, fan de Koh-Lanta, écoutez, et les autres, abstenez-vous si vraiment vous ne pouvez pas.
on va l'écouter tout de suite.
J'ai l'histoire. Il descend dans une grotte et il va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'il pouvait imaginer.
Je vais faire les décors en n'ayant pas peur de la couleur. Je vous préviens, apportez vos lunettes de soleil.
Moi, je dessine les animaux.
Je t'envoie des iguanes. C'est extraordinaire.
Ah oui, quel beau monstre. Je me suis fait un petit costume simple et sympa. Et pourrais-tu prendre un petit accent du terroir ?
Vous êtes prêts ?
Oui !
Si le jeu m'était compté...
Bienvenue sur cette nouvelle saison de Galerapagos. Vous le savez déjà, dans Galerapagos, les aventuriers sont isolés sur une île déserte. Chaque jour, ils devront faire des choix pour lutter pour leur survie. Leur seul échappatoire, construire ensemble un grand radeau. Mais il ne faudra pas tarder, car les nuages à l'horizon indiquent l'arrivée prochaine du dangereux ouragan. Si au début, ils étaient 12, à la fin, il en restera peut-être qu'un. Nous sommes désormais au 10e jour. Ils ne sont plus que 3 et tout le monde est fatigué. Et les denrées se font de plus en plus rares. La tension est palpable dans l'équipe. Quels choix vont être faits et vont-ils fragiliser le groupe? Bienvenue dans Galarapagos. Chers naufragés, voici vos conditions du jour. Aujourd'hui, vous ne pourrez aller chercher au maximum qu'une ration d'eau par naufragé. Et comme vous le savez, il vous faudra autant de rations d'eau et de nourriture pour ne pas mettre en péril votre groupe. Alors, quels seront vos choix? Attirez-vous sur vous les foudres des autres? Aujourd'hui, Daniel est sur les dents. Il est très fatigué et décide d'aller pêcher du poisson. L'aventure est super dure. Je suis HS. Mais la nourriture, elle est rare. On n'a plus de poisson, quoi. Et si nous n'en avons pas assez à la fin de la journée, il y a un naufragé qui sera sacrifié. J'ai pas envie que ce soit moi. Donc j'ai décidé d'aller chercher du poisson. Le problème, on ne peut pas pêcher du poisson comme on veut à Galarapagos. Vous n'êtes limité au maximum qu'à 3 poissons. De plus, on doit tirer dans un petit sachet une boule parmi 6, dont une seule vous permettra d'aller pêcher 3 poissons. C'est vraiment pénible, ça. Mais bon, que voulez-vous? C'est ça, Galarapagos. Guillaume, quant à lui, veut aller fouiller l'épave. L'épave, comme vous le savez, est un lieu où il est possible de trouver des éléments qui peuvent t'aider à survivre. Mais peut tout aussi bien servir à rien, comme récupérer un vieux slip. Moi, je retourne à l'épave. Hier, ça m'a réussi. J'ai trouvé à la fois de la nourriture et de l'eau. Je crois même que j'ai sauvé le groupe. Donc, j'ai aucune raison de pas y retourner. Voilà. Puis, on garde la foi, quoi. Malheureusement, Guillaume n'y récupère rien pour aider le groupe. Mais peut-être pour lui. Alors, Guillaume, pensez-vous trahir déjà le groupe ? Je crois pas que récupérer une lampe torche, une longue vue, un revolver et une balle soit forcément trahir les autres. Il faut aussi penser à se protéger des autres. Peut-être eux, ils seront pas tendres dans les jours à venir. Ils voudront forcément m'éliminer. Faut penser qu'on doit tous s'échapper de l'île. Et nous devons avoir autant de nourriture que d'eau par jour. Et quand t'es limité à une seule action par jour, c'est pas gagné. On a de la chance que jusqu'à aujourd'hui, mais ça sera peut-être plus le cas dans peu de temps. Maintenant, je n'ai rien de forcément utile pour le groupe aujourd'hui. J'espère que les autres le feront pour moi. Pour David, c'est la tuile. Il a décidé d'aller chercher du bois pour construire un radeau. Mais malheureusement, il s'est fait mordre par un serpent. C'est vraiment la mauvaise nouvelle de la journée. Il aurait pas dû être gourmand, franchement. Ça peut nous plomber la journée, là. David, il nous a déjà sauvés plusieurs fois. Moi, je suis à fond avec lui. Repose-toi bien, gars. Et reviens-nous vite en forme. Malheureusement, à la fin de la journée, le groupe n'a pas assez de rations d'eau pour sauver tout le monde. Un conseil va donc être appelé, et un vote va donc être demandé. Si nous sommes ici, c'est que vous n'avez pas réuni assez de nourriture et ou de l'eau. Vous allez donc devoir voter pour celui que vous considérez responsable de votre échec. Moi, j'ai voté pour David. Franchement, même s'il nous a sauvés hier, je l'aime bien, mais aujourd'hui, il a vraiment merdé, quoi. Se faire mordre par un serpent. L'aventure, elle est dure. Et la moindre erreur peut vous coûter la vie. Donc, logiquement, c'est David, quoi.
C'est David. Enfin, c'est logique, non ? Il n'a même pas réussi à construire un rondin de bois depuis le début de l'aventure. Franchement, on peut pas compter sur lui, là. Il se fait mordre par un serpent. Ouais, ça fait plusieurs fois, déjà. Alors moi, je dis ciao, gars.
Ouais, serpent, ça fait mal, là. Ça va mieux, mais... Moi, par dépit, j'ai voté pour Guillaume. Je sais qu'il m'aime bien, et moi aussi, quoi. Je pense qu'il votera pas pour moi, mais là, deux fois en deux jours, aller à l'épave, je trouve que c'est vraiment dangereux et pas constructif, quoi. Désolé, poteau, mais là, c'est plus possible, quoi.
David, avec deux voix contre vous, vous quittez donc l'aventure. Et la sentence et tirez vos câbles. La semaine prochaine, dans Galerapagos, vivez l'affrontement final entre Daniel et Guillaume. Qui, du stratège Daniel ou de l'opportuniste Guillaume, remportera l'aventure? Qui aura le mental assez solide? Pourront-ils s'échapper sur un radeau où l'arrivée de l'ouragan ruinera leurs espoirs? Guillaume utilisera-t-il donc son revolver pour éliminer Daniel? Vous le saurez bien assez vite en regardant les prochaines aventures de Galerapagos. Franchement, je suis dégoûté, quoi. Je les ai sauvés plusieurs fois. Maintenant, il me faut bien de savoir qui va gagner. Tu sauves les gens, tu fais tout ce qu'il faut, et c'est comme ça que tu es récompensé, quoi. Dans toute l'aventure, je me suis loupé qu'une seule fois. J'ai toujours été au service du groupe, quoi. Non, mais franchement, c'est finalement pas un jeu coopératif. C'est vraiment un jeu d'enfoiré. Maintenant, c'est à vous de jouer avec le jeu Galerapagos. Un jeu imaginé par Philippe et Laurence Gamelin, créé par Jonathan Anconte et produit par Gigamic. Sans attendre, répondez à la question: qui a été éliminé dans cette soirée? David, réponse 1. Guillaume, réponse 2. Envoyez votre réponse 1 ou 2 au 72020. Bonne chance à tous, jouez bien et à bientôt dans Galerapagos.
Alors merci Suijeu pour ce voyage sur l'île de Koh Lanta. Alors je trouve que c'est pas sympa pour ce David qui se fait éliminer. Et ouais. je le prends un peu personnellement quand même.
Ouais, je pense qu'il y a un message subliminal pour toi.
Ouais, je pense que il m'en veut sûrement, c'est pour quelque chose.
Voilà, on peut le remercier parce que le coup du numéro surtaxé, il y a bien quelqu'un qui va essayer d'appeler et bien évidemment. Bah ouais. L'argent, ça nous fait un petit complément du Tipeee.
Voilà, c'est sympa. Faudrait qu'on mette un numéro surtaxé comme ça pour si vous voulez envoyer des mots pour les chroniques. Hop, un petit numéro surtaxé, c'est toujours sympa.
Ouais. Oui, puis c'est comme ça, vous pouvez appeler du bureau, par exemple. Ça ne vous coûte pas à vous et nous, ça nous rapporte quand même.
Ah, c'est pas mal comme technique. Ça,
ah, ça c'est ma technique. Tous les numéros payants, c'est pas bien. Faut pas que
J'espère que ton employeur n'écoute pas. Hein.
Non, je ne pense pas.
Alors ça va.
Et sinon, tu es fan de Koh Lanta?
Non, moi j'ai arrêté la télé depuis que Netflix est arrivé en France. J'ai totalement arrêté. Non, Koh Lanta, j'aime pas trop. J'avais bien aimé il y a quelques années Bear Grylls qui. Qui faisait un peu de la survie en milieu hostile. Il se faisait parachuter au milieu d'un désert, ou de n'importe où, dans des lieux un peu dangereux,
ouais.
avec sa bite et son couteau. Donc il avait c'était sa gourde et son couteau, mais voilà, il avait une gourde d'eau et un couteau, et il devait s'en sortir pour retrouver la
cible. Mais une caméra quand même.
Oui, et bon, il y avait toute une équipe de caméramans et de preneurs de son avec lui, quoi.
Ça relativise un petit peu.
Non, mais j'aimais bien parce qu'il dit, oui, là, il était dans le désert. Alors là, il montre un serpent qui est par terre. Et il dit, ah, ça, c'est le serpent le plus dangereux du coin, là. Alors, tu te dis, punaise, il va se barrer. Non, non, lui, il prend un bâton, il lui coince la tête et il le chope et ensuite il l'égorge avec son couteau. Tu te dis, ok.
Bah, bravo. Donc,
je dis, ouais, c'est sympa, quoi. Tu dis, non, non, tu vois le serpent, tu te barres, quoi. Il dit, non, non, lui, il l'a bouffé. Oh. Il dit, ah oui, c'est plein de protéines et tout ça.
Bah oui, bien sûr. Donc toi, c'était le côté survie.
Ouais, voilà. Bah, c'est pour se préparer au monde post-apocalyptique. Mmh.
Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que ce Koh Lanta, c'est quand même très axé plutôt sur... Les gens aiment bien regarder les coups bas qu'on se fait, qu'ils se font entre eux, les traîtrises. Ah ouais. Ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que j'ai pas l'impression que c'est... On valorise ce qu'il y a de mieux dans l'être humain.
Non, mais c'est sous couvert de jeux de survie. Ouais. Quoi. Mais en fait, c'est de toute façon, il faut éliminer des gens.
Non, et puis moi, j'avoue que la survie, là, ça me... dans les émissions de télé-réalité que je trouvais un peu plus rigolotes, même si j'ai un peu honte aujourd'hui d'avoir ri parce que c'est pas vraiment la bienveillance qui parlait. Moi, j'ai des grands souvenirs de L'île de la Tentation qui m'a laissé des fous rires. J'avoue. Là, je me souviens de certaines, de notamment un type qui avait qui faisait des UV dans son salon, qui avait une cabine tuvée dans son salon, ça m'est resté, quoi. C'est régulièrement, j'y repense et ça me faisait quand même, je trouvais ça assez spécial. Je sais pas si vous avez vu cet épisode-là, vous y penserez aussi.
Bon, c'est chacun sa déco, hein. Il y en a qui ont des armoires pleines de jeux, hein.
Lui, donc, il était filmé, il montrait chez lui, il présentait sa maison avec sa femme, et donc, on le voyait passer en string, aller dans sa cabine UV qui était à côté de son canapé, quoi, donc. Et là, tu te dis, bah non, en fait, je me fous un peu de la gueule des. Enfin, tu te fous. C'est une émission qui est faite pour que tu te fous de la gueule des gens, et c'est pas. Sur le coup, bon, c'est, ouais. Tu rigoles bien, mais après, c'est pas des bonnes valeurs, ça.
Ouais, non. Bah, c'est monté pour que tu puisses te moquer des gens aussi.
Ouais.
C'est fait exprès.
Enfin, voilà.
C'est pas. Ne regardez pas la télé et jouez à des jeux de société.
Voilà, moi non plus, j'ai plus la télé. Et depuis, c'était une libération. Tu n'es pas tenté de regarder des conneries juste comme ça par habitude.
C'est ça.
Voilà. Et on vit très bien sans la télé.
Voilà. Et alors. On parlait de survie, et Dany va aussi nous parler d'un jeu de survie, Le Survivant, un Mad Max non officiel de MB. Bah, on va l'écouter tout de suite.
Ce mois-ci, nous allons voyager dans les années 80. De manière assez peu étonnante, le voyage se fait grâce à MB, éditeur majeur de la décennie. Le jeu en question s'appelle Le Survivant. Le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, contrairement à l'univers auquel il fait référence, à savoir un homme seul vivant dans un désert post-apocalyptique où l'essence se fait rare, et où les derniers véhicules qui fonctionnent sont de grosses machines bien bruyantes. Je vous mets la bande-son de la pub de l'époque qui, comme souvent, vaut son pesant de cacahuètes.
Tu roules au milieu de nulle part. Tes ennemis t'attendent au tournant, frappe, creuse les cartes, c'est la loi du survivant.
Survivant,
toujours plus loin, droit devant.
Survivant,
œil pour œil, dent pour dent.
Survivant,
un jeu vraiment méchant. Gagne du terrain et deviens le survivant.
Le Survivant, une course infernale de MB.
Le Survivant est donc un jeu inspiré de Mad Max. Je dis bien inspiré car ce n'est pas un produit dérivé. Aucune référence explicite n'est inscrite sur la règle ou la boîte du jeu. Je ne saurais pas dire s'ils n'ont pas demandé ou s'ils n'ont pas eu la licence. En tout cas, MB faisait à l'époque beaucoup de jeux sous licence, notamment des jeux Nintendo, donc on ne peut pas vraiment dire qu'ils ne connaissaient pas le principe. Dans tous les cas, sortir un jeu en 86 avec un tel thème est sans nul doute une grosse, grosse référence à Mad Max. Le but du jeu est d'être le survivant. Et par survivant, il faut comprendre le dernier joueur en lice. Pour cela, chaque joueur va devoir avancer le plus vite possible pour être en tête de la course, sans oublier de réduire ses adversaires à l'état d'épave. Donc un joueur a une équipe composée de 3 voitures, de puissances différentes, et d'un hélicoptère. Le plateau est lui composé de 2 parties qui s'assemblent et sur lesquelles on retrouve des pistes de course. Pour avancer, les joueurs vont lancer 3 dés jaunes. Chaque dé s'appliquera à une des voitures qui avancera sur le plateau du nombre de cases indiquées. Un des dés bonus permet de faire avancer plus vite votre voiture si elle se situe sur l'une des pistes dédiées sur le plateau. Votre voiture devra éviter les épaves qui traînent sur le parcours. Si vous en avez une sur votre piste, vous lancez un dé rouge. Si vous obtenez 1, 2 ou 3, vous devenez vous-même une épave. Et si vous obtenez 4, 5 ou 6, vous arrivez à passer au-dessus de l'épave et vous continuez à avancer. Ce jeu n'est pas seulement un jeu de course, c'est aussi un jeu de combat. Si vous réduisez vos adversaires à l'état d'épave, j'entends tous vos adversaires, vous avez logiquement plus de chances de rester le dernier sur le plateau. Avec une voiture, vous devez tomber exactement sur la case d'une voiture adverse pour pouvoir la combattre. Chaque joueur lance alors un dé rouge. Si l'attaquant gagne le duel, l'attaqué devient une épave. Si c'est l'attaqué qui gagne, les deux voitures restent en course. Vous avez donc tout intérêt à attaquer vos adversaires. L'hélicoptère peut aussi attaquer une à deux fois par partie. Pour cela, on lance un dé rouge et le résultat doit être égal et supérieur à la valeur de la voiture. Pour renforcer le côté survivant, lorsqu'une voiture arrive à la fin du plateau de droite, on réduit à l'état d'épave tous les véhicules du plateau de gauche. Ça accélère pas mal la partie et ça donne un petit côté jeu vidéo. À ce moment-là, vous prenez le plateau de gauche que vous remettez devant le plateau de droite pour continuer la partie s'il reste des adversaires. Vous pouvez aussi réparer vos voitures qui sont à l'état d'épave en faisant un double 6. Et le gagnant est donc le dernier joueur en lice. Je dois dire que je suis assez fan de ce jeu. La boîte est vraiment chouette, avec une belle illustration, qu'on qualifierait de vintage aujourd'hui, mais on peut pas dire qu'elle est vraiment vieillie. Je mettrai une photo sur le billet si vous voulez voir. Les véhicules sont sympas, mais même s'ils sont un peu durs à trouver, tous en bon état. Le principe de cours jusqu'au dernier est lui aussi bien sympa, même s'il faut pas jouer avec des gens trop petits, qui seront déçus de se faire attaquer. Enfin, je dis des trop petits, mais ça reste vrai pour les mauvais joueurs. Dans tous les cas, c'est toujours marrant de se faire une petite partie de jeu. Alors, c'est vraiment un mélange combat et course. Si vous voulez un vrai jeu de course vintage, vaut mieux faire un Formule D. Mais là, ça mélange les deux. Comme d'habitude, c'est un jeu que vous ne trouverez pas sur Philibert. Avec un peu de chance, vous le trouverez en vide-grenier. Même si je dois reconnaître que, contrairement à mes habitudes, celui-là, je l'ai acheté sur le net. Je le cherchais depuis assez longtemps, 2-3 ans. Je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai fini par craquer et je l'ai acheté sur le net. Mais je me soigne pour l'année qui vient. Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes en 2018 et d'ici là, jouez bien!
Merci Dani pour ce voyage en terre de Mad Max et dans les années 90. Moi j'aime bien quand elle met les pubs, les ouais. pubs télé, ça. Ça on en veut plus souvent, hein, Dani. On aime bien ça.
C'est quand
rappelle notre jeunesse.
Exactement. Parfois t'as une sorte de Madeleine de Proust et là tu te revois. En disant, ce jeu a l'air extraordinaire.
Mais en fait, ils étaient tous présentés comme ça, les jeux. C'était dingue. Tous ceux qu'elle a pu passer, ils sont.
Oui, c'était toujours sur le même mode.
Ouais.
Mais ils n'avaient qu'une seule personne qui faisait toutes les pubs pour les jeux. Donc, il avait eu une idée un jour et puis il la dupliquait.
Ouais, il faisait ses mêmes intonations et tout ça. Heureusement, maintenant, on fait un peu mieux. Je sais même pas s'il y a des pubs. Du coup, comme j'ai plus de télé, je sais même pas s'il y a des pubs pour les jeux de société à Noël.
Ben non, je sais pas. J'imagine que s'il y en a qui passent, c'est plutôt sur les chaînes enfants. Et je crois que d'ailleurs, la publicité est assez réglementée sur les... Enfin, maintenant, dans les programmes jeunesse.
Bah, ils disent pas « Retrouvez Terraforming Mars ». Ouais, je monte mon vaisseau.
Non, bizarrement.
Je place 2 cubes rouges, ouais.
Tu as toujours eu envie d'être un agriculteur reconstruisant l'Europe après la grande famine dans Agricola.
Ouais.
Tu pourras même avoir des enfants.
Ah non, ça c'est pas bien ça. Là. Attention, non, la violence oui, mais le sexe non, pas à la télé.
Non, quand même pas. Non, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup. Enfin, s'il y en a un, parce qu'il y a forcément quelques pubs, mais c'est pas forcément les jeux qu'on recommanderait qui passent.
C'était pas la, en plus, je crois qu'il y a la des... sélection proxy jeux qui passent à la télé.
Je suis pas persuadée. Et je crois qu'en plus, il y a des chaînes de télé qui ont des. Branche jeu de plateau, hein.
Ah oui, ils font les jeux tirés de leurs émissions de télé.
Ouais, voilà.
Comme le jeu des boîtes là de Arthur, ça j'ai jamais rien compris à ce jeu-là. Je suis tombé deux fois, j'ai dit mais qu'est-ce, ils ouvrent des boîtes, vous voulez changer votre boîte, ouais. Et après du coup dans le jeu, je sais pas, c'est parce que c'est Arthur qui fait tout le jeu.
Ouais.
Dans l'émission de télé, mais dans le jeu de société, est-ce que Arthur il vient chez toi pour te dire alors vous voulez vraiment ouvrir cette boîte ?
Non, je pense pas qu'il vienne chez toi.
De toute façon, il n'y a pas d'argent vraiment dans les boîtes. Si dans le jeu de société aussi, il y a quand même des boîtes non. Et tu dis si tu ouvres, ah maintenant j'ai ouvert la mauvaise.
Non, mais c'est vrai qu'il y a eu à un moment une mode de faire des jeux de plateau, tirés de jeux, jeux télé, il y en a eu pas mal. Hein. Bah, t'as dû avoir un qui veut gagner des millions. Et tu gagnais rien du tout, en fait. C'était quand même l'arnaque complète.
tu faisais que les questions. Hein,
ça n'a eu de fin. Parce que du coup, t'as pas le même enjeu quand tu dois dire est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue. De toute façon, tu sais que tu ne perdras pas d'argent, il n'y a rien.
Ouais, mais si c'est pour répondre à des questions, autant répondre aux questions des apéricubes. Au moins, tu peux manger du fromage.
Mais non, je pense qu'il y a vraiment des jeux spécifiques créés par des filiales ou je sais pas de chaînes de télé. Mais pour enfants, hein, j'en ai vu. Et c'était pas forcément les trucs qui avaient l'air les plus palpitants. Même visuellement, c'était pas terrible. Sans même aller jusqu'au contenu du jeu, tu vois, ou aux thématiques.
C'est Dora pas... l'exploratrice dans, sur le 7e continent, c'est ça?
Ouais, peut-être. Voilà, c'est ça. Dora et Diego chez les Sirius Poulpes, pourquoi pas?
C'est voilà.
Ah, mais tu peux trouver. Je pense que tu peux en trouver. Hein. Ah, ça pourrait, on pourrait lancer des idées comme ça.
Donc, tu si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et on va. On informera les éditeurs de, des jeux que vous voulez, hein, des licences que vous voulez voir adaptées en jeux de société. Et plus sérieusement, c'est notre ami Le Pionfesseur qui, ce mois-ci, remplace Flavien et nous parle des jeux narratifs et surtout de Time Story. On va l'écouter tout de suite.
Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Je ne sais pas si vous traîniez déjà sur TrickTrack il y a 5 ans, mais à cette époque, le site, qui était déjà depuis un petit moment le leader de la news ludique francophone, avait écrit un article qui m'avait marqué. Au milieu de toutes les news sur les sorties du moment, Monsieur Fall a écrit quelque chose d'assez inhabituel, quelque chose à propos d'un jeu qui sortirait 3 ans plus tard. Pas vraiment un teaser, on en apprend assez peu sur le jeu au final, même son nom n'était pas définitif à l'époque. Non, c'était plutôt comme un cri du cœur, comme si le monde ludique allait bientôt se révolutionner grâce à ce jeu, qu'il décrit comme, je cite, « le Saint Graal ». Il s'agissait là de Time Stories, que l'on connaît tous aujourd'hui et qui effectivement a fait pas mal d'émules à sa sortie. Il faut dire qu'il avait une mécanique assez nouvelle qui mélange habilement mécanique de jeu de société et composante narrative. Inutile de vous décrire plus loin ce que la mécanique de jeu vous réserve, puisqu'il suffit de farfouiller un peu sur le net pour trouver plein de gens qui en parlent mieux que moi. Et puis surtout, aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à ce côté narratif. Est-ce que Time Stories a vraiment apporté, comme nous le promettait Monsieur Fall il y a 5 ans, une véritable révolution ludique? La première chose qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, la mode du narratif est dans l'air du temps. La même année que Time Stories, on a pu voir débouler des jeux comme Pandemic Legacy ou encore Watson et Holmes. Mais c'est surtout quand on regarde les sorties futures que l'on voit que cette mouvance est en plein essor. Entre les nombreux jeux Legacy, Château Aventure de chez Yellow, Stuffed Fables chez Played at Games, l'arrivée de nouveaux jeux de rôle à destination du grand public, ou encore les nouveaux concepts de BD dont vous êtes le héros comme Enquête du Dragon chez Gameflow ou Bayam chez Blue Orange, ça montre clairement que les deux gros cartons qu'ont été Time Stories et Pandemic Legacy ont clairement lancé une mode du narratif dans le jeu de société. Et puis les éditeurs ne vont pas s'en priver, car vendre des jeux à histoire, c'est aussi le moyen de proposer des suites, donc des extensions. Je vous précise que je vous mettrai en lien dans le billet tous les jeux que je viens de citer si vous souhaitez vous renseigner un peu plus dessus. Je disais donc que Time Stories est en grande partie responsable de cette nouvelle mode. Et dans le milieu du jeu de société, on a l'habitude de voir quelques gros hits lancer ce genre de mode. On a eu les Chevaliers de la Table Ronde qui avaient lancé la mode du coopératif, Dominion qui a lancé celle du deck building, ou encore Seven Wonders qui avait lancé celle du draft par exemple. En général, tous ces jeux sont assez novateurs, ou du moins utilisent une mécanique qui était assez peu utilisée à leur époque, en particulier Dominion qui pour le coup a été le tout premier à utiliser sa mécanique. Mais Time Stories, et par extension le jeu narratif, est-ce que c'est vraiment si nouveau que ça? Bah carrément pas en fait, c'est même plutôt un retour aux sources, particulièrement aux années 80 où l'on a vu naître la mode des jeux de rôle ou encore des livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs, on avait quelques jeux de société narratifs à l'époque, comme Détective Conseil ou Tales of Arabian Nights, qui étaient deux jeux hyper innovants pour l'époque, en étant justement des sortes d'hybrides entre jeux de société et livres dont vous êtes le héros. Par la suite, c'est un peu tombé dans l'oubli, même si on avait encore les jeux Ameritrash pour nous servir des jeux avec des thématiques bien prononcées, mais qu'on ne pourrait pas forcément qualifier de jeux narratifs. Bon, ok, le jeu narratif, c'est pas nouveau. Mais quand même, Time Stories et tous ces nouveaux jeux narratifs apportent un nouveau truc. Parce qu'entre-temps, plus de 30 ans se sont écoulés, et vu que le jeu de société a eu le temps de bien évoluer, le game design, donc les mécaniques, l'équilibrage et ce genre de choses, sont devenus bien meilleurs. Et c'est peut-être ce qui manquait à certains des jeux narratifs, disons, à l'ancienne. Il y a par exemple pas mal de livres dont vous êtes le héros qui étaient beaucoup trop punitifs, où il fallait connaître par cœur le bon chemin pour pouvoir ne pas se perdre, ou qui utilisaient beaucoup trop le hasard dans ces systèmes de jeu. De même, les jeux de rôle avaient leurs propres problèmes. Ils nécessitaient beaucoup de temps et d'investissement, ce qui les rendait assez austères pour un public débutant. La mouvance des jeux narratifs, une mouvance qu'on ne peut que prédire puisqu'on est encore en plein dedans, semble nous promettre soit des jeux plus accessibles, soit des jeux avec des mécaniques nouvelles qui s'imbriquent bien avec le côté narratif. Je vous ai parlé de Watson et Holmes tout à l'heure. C'est pour moi l'exemple le plus élégant d'imbrication entre du narratif et du gameplay, tout en restant un jeu jouable en une bonne heure, et avec des règles pas trop compliquées, donc ça reste quand même assez accessible pour des débutants. C'est plutôt marrant parce qu'on a un peu la même chose à l'heure actuelle avec le monde du jeu vidéo. On a pas mal de petites et moyennes productions qui sortent pas mal de jeux narratifs, car il y a en quelque sorte une mode, et c'est au final une évolution des vieux jeux narratifs textuels, ou qu'on appelle aussi les fictions interactives. Un vieux type de jeu un peu obscur qui existait dans les tout débuts du jeu vidéo. Le narratif, c'est donc pas quelque chose de nouveau dans le monde du jeu en général. Mais une nouvelle mouvance est en train de voir le jour. Et pour le moment, on peut constater pas mal de jeux très réussis qui ont propulsé le narratif au rang de tendance du moment. Espérons donc que cela n'en reste pas juste à une mode, et qu'on ne va pas voir sortir des jeux narratifs jusqu'à l'écœurement, comme c'est un peu le cas à l'heure actuelle avec les jeux de deck building ou de draft, qui sortent à l'appel depuis quelques années. De nouveau, on pourrait faire une comparaison avec le jeu vidéo. Il y a aussi des modes, comme celle du roguelike ou celle du monde ouvert, qui étaient aussi inspirées de vieux concepts des années 80, mais qui au final ont fini par être tellement omniprésentes que tout le monde a fini par s'en lasser, car les jeux ne cherchaient pas à se vendre sur des principes originaux, mais simplement sur le fait qu'ils utilisaient cette mécanique. Ne souhaitons pas ça aux jeux narratifs. Sans être le Saint Graal, c'est un style de jeu que je trouve vraiment sympa, et surtout ce que prouvent les dernières sorties, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser. J'attends donc les prochaines années en espérant que, comme il a su toujours le faire, le monde du jeu de société me surprenne. Voilà, c'était tout pour cette chronique, je vous dis au mois prochain, et en attendant, jouez bien!
Merci Pionfesseur pour cette fine analyse. Et toi Paul Legara, tu joues à des jeux narratifs ou c'est pas trop ton truc?
Si, c'est beaucoup mon truc. Tout à là, c'est vraiment exactement les jeux que j'aime. Et Time Story, c'est un jeu que j'adore. Donc je peux, si Flavien aussi, je peux toujours prendre le relais aussi. C'est un jeu que je trouve absolument extraordinaire. Enfin, qui a vraiment été une claque pour moi. Donc ça paraît un peu con de dire ça. Enfin, c'est dans mes 10 jeux préférés. Peut-être que tu vois, je le mettrais si j'avais encore l'âge de faire des listes comme ça de choses préférées. C'est un jeu que je trouve génial, super bien pensé. Et je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qui lui ont été faites qui n'étaient pas toujours justes, notamment sur la rejouabilité, parce que je pense qu'on peut très bien y rejouer, mais sous un certain aspect. Par exemple, quand toi, t'es la seule personne à avoir déjà, même si t'as déjà fait le scénario, tu peux rejouer avec 3 autres personnes qui ne le connaissent pas du tout. Et tu te dis que t'essaies de pas trop influer sur les choix qui sont
faits. Faut pas prendre trop le lead sur. Non, voilà. Faire le leader, quoi.
C'est... Justement, essayer d'être resté un peu en retrait sur le cheminement du groupe et être là plutôt comme un peu un garant des règles du jeu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Hein. J'y ai joué d'abord en club et après, j'ai refait certains scénarios avec ma famille, qui est pas, enfin, mais notamment mes parents qui sont pas spécialement joueurs et qui ont bien aimé. Enfin, vraiment, ils ont adoré. Et un jour, avec ma mère, on a comme projet d'écrire un scénario de Time Stories. Donc, attention.
Voilà. Donc, Manuel Rozoy, si tu nous écoutes.
Voilà, quand mes enfants auront 18 ans et que j'aurai un peu de temps libre, j'écrirai. Mais sur la chronique en elle-même, pour avoir échangé un peu avec le Pionfesseur pour préparer l'enregistrement, moi, je me suis demandé si ce qu'on recherchait dans les jeux narratifs, c'était pas de l'émotion que dans les jeux de gestion, que les jeux de gestion ont peut-être plus de mal à procurer, en tout cas a priori, parce que les jeux de gestion sont peut-être plutôt un peu plus froids, ça s'adresse beaucoup plus au rationnel en nous, vraiment au côté un peu on calcule, calculatoire, et optimisation, alors que dans les jeux narratifs on va beaucoup plus se laisser guider par ce qu'on ressent aussi, enfin le ressenti que l'on a dans la partie, dans l'intrigue.
Bah, je pense que les jeux narratifs, c'est un peu comme le jeu de rôle. Ce qu'il y a, c'est qu'on crée pas, on n'a pas de point de victoire, mais on crée une histoire. Et le fait qu'on soit nous créateurs d'une histoire, donc
du scénario, ouais.
on est plus impliqué émotionnellement parce qu'on met un peu de son imaginaire dans l'histoire,
oui.
qu'on raconte.
Voilà, on projette beaucoup plus de choses dans l'intrigue. Fatalement, on réagit, on peut dire ce qu'on veut, hein, on peut dire qu'on réagit avec le point de vue du personnage, mais en réalité, on réagit beaucoup avec son point de vue à soi. Enfin, on peut dire qu'on fait du roleplay. En réalité, dans le roleplay, on transpose quand même beaucoup de ses émotions. Et ça peut aussi aboutir à des questionnements. J'ai lu, sans spoiler, hein, que dans le dernier scénario de Time Stories qui est sorti, donc qui s'appelle Estrella Drive, c'est un peu ce qui a été recherché. Hein. C'est beaucoup pour aussi questionner le joueur par rapport à sa relation, la distanciation que tu mets entre ton personnage et ce que toi tu es. Et je pense que c'est un sujet qui est pas que dans le jeu de société, aussi qu'il y a dans le jeu vidéo, de sa, enfin, d'arriver à créer un véritable lien d'empathie entre le joueur et son avatar. Qui est peut-être plus fort dans, facile dans le jeu vidéo parce que tu t'identifies beaucoup plus que dans un Meeple, c'est plus dur de se projeter dedans. Peut-être que dans Time Story, c'est plus simple parce que tu as vraiment des personnages qui te sont les visualises bien, tu peux rentrer
qui sont plus typés que qu'un Meeple qui est juste d'une couleur quoi. Bah oui, dans le jeu vidéo, c'est pour ça que Zelda, il a bien marché parce que faut quand tu te déplaces, tout ce temps-là, tu l'as passé avec le personnage, donc tu es un peu comme à la fin d'une campagne de jeu de rôle, ton personnage, c'est un peu de toi parce que comme tu disais, si tu fais du roleplay, c'est quand même un peu toujours toi qui est derrière. Alors même si tu peux le jouer un peu différemment, c'est toujours par ton prisme que le personnage évolue et du coup, il y a quand même un peu de toi dedans. Et c'est ça c'est de l'émotion, c'est parce que ça te touche toi, quoi.
Voilà, et je pense que dans les émotions qui sont peut-être les plus dures à procurer en fait par le jeu, je pense que c'est beaucoup la tristesse qui est une émotion qui est très forte, et même dans la vie de tous les jours qu'on n'éprouve pas forcément quotidiennement. Et moi j'ai joué, j'avais un exemple d'un jeu vidéo qui s'appelle qui est sorti l'année un peu plus d'un an maintenant, The Last Guardian, où t'as vraiment ce qui est très très fort au niveau des émotions, et notamment enfin c'est où t'as beaucoup d'empathie, et où même donc pour le personnage, pour l'animal en fait, la créature avec laquelle tu interfères dans le jeu. Et en plus dans le jeu, il y a beaucoup de choses, c'est pas juste tu fais un, je sais plus comment on dit dans les consoles, mais quand tu sais t'appuies sur triangle, un QRT je crois, enfin je sais plus comment ça s'appelle exactement, désolé. Tu fais pas triangle rond et hop la bestiole elle fait ce que tu lui demandes. Il faut que tu doses entre c'est hyper dur à expliquer, il y a pas de mode d'emploi pour réussir automatiquement à ce que l'animal fasse ce que tu lui demandes. Il faut que tu aies établi une relation suffisamment proche, donc c'est beaucoup de dosage, c'est un peu comme avec un vrai, et t'as vraiment le ressenti d'être avec un vrai animal, et là là tu te dis ça explore, c'est pas quelque chose de rationnel, j'appuie sur un bouton, je fais une suite de codes et ça va marcher, c'est vraiment ce que toi tu mets, ce que tu doses, donc ce que tu doses c'est en fonction de ta propre empathie à toi, enfin tu vas doser ce qui te paraît nécessaire pour établir la relation avec l'animal et ça va marcher ou pas, et là c'est juste, enfin moi j'avais été vraiment bluffée par le jeu pour ça quoi, c'est. Et moi, j'ai un chat et j'ai vraiment eu le même, enfin, des choses qui étaient similaires à ce que tu peux avoir avec un vrai animal domestique, enfin, dans le relationnel. Parce que tu peux pas aller trop loin. Enfin, trop loin, il en a marre aussi comme un animal. C'est parfois.
Le chat, il s'en fout, sinon, il se barre. Hein.
Exactement. Donc, je pense que les jeux narratifs, il y a aussi de ça beaucoup de procurer des émotions qui sont de plus en plus fortes. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ils aiment. Enfin, on recherche beaucoup à dans les loisirs, à vivre des émotions fortes, enfin, c'est...
Ouais. Après, on dit pas que dans un jeu de gestion, on peut pas ressentir d'émotions. Il y a quand même des émotions. Parce que sinon, on va se prendre des commentaires.
C'est pas les mêmes émotions.
C'est pas les mêmes. Voilà. Et c'est peut-être moins intense aussi que l'histoire dans laquelle...
Pour revenir à Agricola, même si tu nourris pas ton enfant et qu'il meurt... à la fin du tour, tu seras pas en deuil en réalité, quoi. Tu seras emmerdé, mais tu seras pas en deuil.
Tu seras plus triste si tu perds ton personnage de jeu de rôle qui a fait avec lequel t'as fait déjà plusieurs parties, voire plusieurs campagnes. Là, si ton personnage y meurt, t'as quand même un petit pincement au cœur, quoi. C'est quand même un peu de toi. Et sur ces considérations très très joyeuses,
je sais pas ce qu'on a aujourd'hui, c'est.
c'est la fatigue. Mais on va écouter une chronique maintenant qui est beaucoup plus gaie et enjouée.
Oui.
C'est ta chronique. Alors tu nous parles de quel jeu ce coup-ci ?
Eh bien, ce mois-ci, je vous parle de Volaille. Après les fêtes de Noël, c'est normal. Vous en pouviez plus. Les dindes et compagnie, foie gras, enfin voilà. Donc du coup, je repasse une couche tout en subtilité. Donc on parle de Pique-Plume, qui est un jeu pour vraiment jeunes enfants. Et pour un peu plus grand, on parle de canardage. Donc, c'est deux jeux à base de volatiles qui n'ont pas du tout le même objectif.
Maman, je m'ennuie.
Tu veux qu'on fasse un jeu ?
Oui, tout sauf le Monopoly.
Tu connais Marrakech ? C'est comme le Monopoly, mais en 100 fois mieux.
Bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses. Je suis Paul Gara et dans cette chronique de joueurs nés, je vous propose de nous intéresser aux volatiles en tout genre. Non, mon propos n'est pas ici de vous alerter sur le triste sort des poulets élevés en batterie, quoique, ni sur la torture que représente le gavage des canards pour la production de foie gras, quoique. Non, je vous propose d'évoquer aujourd'hui deux jeux mettant en scène poulets canards dans des situations plus inoffensives, quoique. Tout d'abord parlons de Picplume, un jeu de Klaus Zahor, illustré par Doris Matthaus, peut-être la sœur de Lothar, édité par Gigamic et disponible au prix de 31,50€ chez Philibert. Ce jeu compétitif destiné aux enfants à partir de 4 ans se compose de 24 tuiles ovales représentant 12 dessins différents, 12 tuiles octogonales chacune représentant l'un des dessins présents sur les tuiles ovales qui figureront la basse-cour, 2 poulets coques en bois chacun d'une couleur différente, bleu, vert, jaune et rouge, 4 plumes chacune de l'une des couleurs précitées. On place les 24 tuiles ovales face visible aléatoirement de façon à former un cercle figurant le chemin serpentant autour de la basse-cour. Puis, toujours de façon aléatoire, on place les 12 tuiles octogonales face cachée au centre du cercle qui constituent la basse-cour. Enfin, on place chacune des poules coques avec sa plume sur l'une des tuiles ovales en veillant à ce que chacun des volatiles soit bien à équidistance de ses adversaires. Le but du jeu consiste à plumer chacun de ses concurrents, c'est-à-dire concrètement à le doubler pour lui subtiliser sa plume et l'accrocher à son propre volatile, car chacun d'entre eux dispose de 4 encoches dans lesquelles fixer chacune des plumes. Le vainqueur est celui qui parvient à récupérer les plumes de tous ses concurrents. Picplume est donc un jeu de course, car il faut rattraper et doubler ses adversaires pour leur dérober leurs plumes. Mais pas seulement. Et oui, Picplume est également un jeu de mémoire, car c'est par ce mécanisme que l'on va pouvoir avancer de tuile en tuile. En effet, pour avancer sur le chemin serpentant tout autour de la basse-cour, il faut retrouver parmi les 12 tuiles octogonales, situées au centre de la basse-cour, celles représentant le même dessin que celui figurant sur la tuile ovale juste devant sa poule ou son coq. En cas d'erreur, on ne bouge pas, et le joueur suivant joue. En cas de réussite, on avance d'une tuile, puis on a le droit de rejouer pour trouver la tuile octogonale correspondant au nouveau dessin juste devant nous. Forcément, les premiers tours, on marche sur des œufs, mais au fur et à mesure, on avance de façon spectaculaire si on est capable de se souvenir de l'emplacement des tuiles octogonales et ainsi d'enchaîner la progression sur les tuiles ovales jusqu'à doubler les autres joueurs. Question matérielle, les figurines des poulets coques en bois sont vraiment jolies et agréables à manipuler pour de jeunes enfants, même si on se dit qu'elles pourraient constituer de dangereux projectiles. Les illustrations sont amusantes sans être trop enfantines et représentent bien l'environnement d'une basse-cour. Un poussin, un lapin, un escargot, une limace, un nid d'oiseau. Côté fun, c'est le succès garanti. En effet, beaucoup de jeux pour enfants reposent sur la mécanique du memory, qui n'est pas, n'ayant pas peur de le dire, le truc le plus marrant du monde. Mais le fait de le combiner à une course permet de varier le jeu et de lui donner un rythme plus dynamique que les enfants comme les parents apprécieront. Et le fait de piquer la plume à celui qu'on double pour se l'approprier plaît énormément. Côté règles du jeu, cela reste accessible. Si ce n'est que, pour une raison frôlant l'irrationnel, ma fille a beaucoup de mal à accepter que l'on rejoue lorsque l'on a réussi à trouver la bonne tuile octogonale. Cela a d'ailleurs occasionné beaucoup de mauvaise humeur de sa part. Je vous ai dit que les poules en bois faisaient de très bons projectiles. Et a conduit à quelques arrêts de partie prématurés. Ceci dit, on s'améliore de ce côté-là et les parties sont désormais de plus en plus sereines. Picplume est donc un jeu à hautement recommander, très intelligent pour de jeunes enfants et plus complexe dans sa mécanique qui combine le jeu de mémoire et le jeu de course. Il ne faut pas hésiter à attendre un peu et à le ressortir au bout de quelques semaines si l'on constate que l'enfant a du mal sur les premières parties à appréhender cette double mécanique. Un autre jeu à base de volailles maintenant, Canardage, toujours chez Gigamic, un jeu compétitif de Keith Myers pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour un prix de 13,50€ chez Philibert. Il est illustré par Randy Martinez. Comme son nom l'indique, il s'agit ici de tirer sur des canards, un peu à la manière de l'attraction de fête foraine, bien connue, et sans risque de se prendre une cartouche d'un mauvais chasseur. Et oui, on le sait tous, hein, un mauvais chasseur, il voit quelque chose qui bouge, il tire, alors qu'un bon chasseur... Cette séance de tir au canard inclut donc 36 cartes canards, 6 cartes de 6 couleurs différentes, 5 cartes eau, 100 canards, 52 cartes action, 6 marqueurs cibles, ah, c'est difficile à dire 6 marqueurs cibles, un plateau disposant de 7 emplacements. Les cartes canards, en fonction du nombre de joueurs bien sûr, et eau sont mélangées pour être disposées sur la ligne de tir. On en retourne 6 que l'on place de façon à former la ligne, et la pioche est placée face cachée sur le 7e emplacement du plateau. On distribue ensuite 2 cartes actions à chaque joueur. Pour gagner, il faut être le dernier joueur à avoir encore des canards sur la ligne de tir. Ainsi, à son tour, chaque joueur doit jouer une de ses cartes actions. Celles-ci permettent de mettre en joue un canard de la ligne, et ainsi de poser un marqueur cible au-dessus de l'emplacement de la carte choisie, de tirer pour dégommer un canard, mais aussi de déplacer les canards vers la gauche ou la droite, d'échanger deux canards sur la ligne de tir, de faire avancer la ligne de tir, etc., etc. Lorsque les canards avancent sur la ligne de tir, ou lorsqu'un canard est dégommé, on décale d'un cran vers la gauche chaque carte, et on pioche une nouvelle carte dans la pioche posée sur le plateau de jeu, celle contenant les cartes canards et eau. Certaines cartes permettent également de déplacer les cibles, de dévier les tirs, de cacher ses canards ou encore de ressusciter un canard déjà tombé au combat. Après avoir joué une carte action, ce qui est toujours obligatoire, on pioche une nouvelle carte dans la pile de cartes action pour avoir toujours 2 cartes en main. Canardage est donc un jeu un peu fourbe, où tout ce qui paraît acquis a vite fait de se retourner contre vous. D'ailleurs, même si tous vos canards ont été éliminés, vous pouvez continuer de jouer vos cartes actions, juste histoire d'enquiquiner un peu les autres joueurs et de se venger le cas échéant. Malgré cette fourberie sadique qui pourrait leur faire verser quelques larmes, rien de tel que de s'acharner contre ses enfants, histoire de leur apprendre un peu la vie, les enfants adorent, car canardage reste un jeu très fun, dans lequel les situations se retournent rapidement. On peut s'allier puis se trahir sans aucune vergogne, ce qui ajoute beaucoup de piment au jeu. Et ce jeu dispose d'un petit côté stratégique, car il faut bien anticiper le déplacement des canards sur la ligne de tir lorsque l'on place ses cibles. Car si les canards se déplacent, les cibles, elles, ne bougent pas, ce qui peut changer très rapidement les rapports de force en présence. Et on croise alors les doigts pour que personne n'ait une carte pan pour tirer sur ses canards. Canardage est donc un petit jeu très efficace, facile à emporter et idéal, notamment pour les fins d'année scolaire. Il fonctionne toujours très bien à l'âge adulte et on prend beaucoup de plaisir à y jouer en famille. Quant au visuel du jeu, il est tout à fait en adéquation avec son esprit, avec ce petit côté décalé amusant, notamment sur les cartes actions. C'est tout pour cette chronique. Le mois prochain, une fois n'est pas coutume, je vous parlerai de jeux de rôle spécifiquement adaptés aux enfants. Et d'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants.
Merci Paul Garin, c'est une très belle chronique. Des ouais, pique plumes, ça marche toujours ça sur ouais. avec les enfants. En plus le matos est bien sympa avec les
oui.
petites poules en bois.
Oui, poules ou coques, c'est aussi pareil. Ils ont féminisé peut-être.
On va dire poules ou coques comme ça, ouais. c'est écriture inclusive.
Il y en a deux de chaque, c'est paritaire, c'est bon.
Ah c'est ça.
Et oui, c'est...
Canardage.
Ouais, Canardage, je ne sais pas si tu connaissais.
Non, ça, je ne connais pas, mais j'ai vu la couverture. Ça m'a fait penser au jeu de Nintendo lequel on tirait sur le tir au pigeon.
C'est un peu moins dangereux, quand même. C'est un peu ça, mais c'est un peu moins dangereux. Et c'est vraiment rigolo. Hein. C'est un jeu qui passe très bien, qui est pas cher, qui est tout simple, mais qui est quand même un peu stratégique, puisqu'il faut toujours anticiper la situation dans laquelle tu peux te trouver, puisque ça avance tout le temps. Et ça marche super bien chez les pré-adolescents et les ados, même les adultes.
Hein. Bah, qui n'a pas envie de tirer sur les pigeons, ça fait toujours plaisir.
C'est des canards, là, à vrai dire, d'ailleurs.
Ah, c'est des canards. Ah, c'est ouais.
C'est des pigeons d'eau, des canards.
C'est des canards. Mais c'est surtout c'est à la fête foraine, tu vois, comme ça.
Oui, c'est exactement ça.
Comme ça, aucun animal n'a été blessé pendant ce tir au pigeon, bien sûr.
Non. Non, je veux pas avoir de problème, en plus. C'est pas du
avec
tout...
Avec la SPA.
Je suis pas du tout chasseuse dans l'âme, donc...
Oui, pour revenir juste sur Nintendo, j'ai vu qu'ils allaient sortir un jeu de... Le jeu de NES de tir au pigeon, ils allaient le sortir en version réalité virtuelle.
Ah, celui qui s'appelait Duck quelque chose, non?
Ouais, Duck Hunt.
Ouais, voilà. Ah bah ça, c'est, je crois qu'on l'a, nous, encore.
Ouais, mais en réalité, j'ai vu des images en réalité virtuelle Ça a l'air assez impressionnant. Je pense que là, tu dois vraiment être au milieu des brousses et tirer les pigeons. Ça doit être marrant.
Oui, je pense que ça peut être pas mal. Mais bon, moi, à titre perso, j'ai jamais essayé la réalité virtuelle. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'essayer, mais...
Moi, j'ai essayé une fois et c'est assez bluffant comme...
Ouais. Moi, j'ai peur que ça... Enfin, j'ai cru comprendre que ça donnait un peu mal au cœur.
Moi, je suis très, très sensible à ce genre de choses. Et ça dépend, en fait, des jeux. Il y a certains jeux qui le gèrent mieux que d'autres.
D'accord. En fait. Parce que moi aussi,
surtout
je suis... Ouais, moi, je suis comme toi et je me dis, non, je vais peut-être éviter.
faut essayer chez des... Pas chez toi, mais chez des gens
amis.
Comme ça. Si tu vomis, c'est pas ton salon.
Bon, après, ils te réinviteront pas, mais...
Ah, c'est ça.
Puis, à la limite, il faut le faire chez des amis que t'aimes pas trop, comme ça, après, t'es plus leur ami.
Ah, voilà. Je sais pas s'ils font les caisses de réalité virtuelle avec le vomi bag prévu intégré au casque.
Ça pourrait être une idée, on pourrait lancer un concept. Voilà.
On va faire un Kickstarter avec ça.
Pour faire juste des sacs en papier, tu sais.
Voilà, c'est ça. Avec un petit bout de fil de fer qui tient le sac en papier devant la bouche, tu vois, comme ça.
Ouais,
tu
c'est
peux
pas mal
continuer
ça.
À jouer et vomir en même temps.
Voilà. C'est charmant tout de suite à la fin de la partie.
Donc ça va faire plaisir à Acariatre qu'on enchaîne sur sa chronique après avoir parlé de vomi, je suis sûr.
Ah oui, mon Dieu, le pauvre, ça c'est... La transition est un peu rude là.
Voilà. Donc il continue donc à parcourir donc les terres de Luda Incognita.
Oui.
Sur la terre des grands explorateurs ludiques. Et la question qui se pose ce mois-ci, c'est pourquoi est-il si important d'étudier sérieusement le jeu ? Ben, on va l'écouter tout de suite.
Ludo Incognito. À la découverte de la faune ludique.
Bonjour les joueuses et les joueurs. Ça fait déjà presque 4 mois qu'on arpente ensemble les contrées de Luda Incognita. Cet étrange territoire où les jeux sont rois. Ici et là, nous avons suivi les traces sinueuses et pas toujours très lisibles des grands explorateurs qui nous ont précédés. Rappelez-vous, Johan Huizinga, qui voit du jeu partout et en fait le fondement de toute culture. Roger Caillois, ensuite, qui tente de classer les jeux à coups de mots étranges et qui classe ensuite les civilisations en fonction des jeux qu'elles jouent. Et Jacques Henriot, qui préférait qu'on étudie le joueur plutôt que le jeu. Même si j'en avais l'intuition, la lecture de ces trois auteurs considérés comme des piliers de l'étude du jeu m'ont fait réaliser à quel point le jeu était une chose incroyable, quand on prend enfin le temps de s'y pencher. Incroyable car le jeu est profondément naturel, inné, universel. Et pour autant, il reste une chose impossible à définir ou à circonscrire précisément, sans tomber dans des pièges trop restrictifs ou hasardeux. Après ce premier court séjour en territoire ludique, il est cependant temps de se demander à quoi rime ce voyage. Pourquoi réfléchir quand on peut jouer ? Pourquoi interroger quand on peut pratiquer ? Faire du jeu un sujet d'étude, non mais t'es sérieux ? J'y vois plusieurs raisons. La place du jeu est centrale dans notre monde. C'est l'une des premières activités que l'on pratique, quasiment dès la naissance. C'est aussi aujourd'hui un des filtres par lequel on fait passer toute activité, ce qu'on appelle la gamification. Comprendre le jeu, ou du moins tenter de le comprendre, c'est donc essayer de se comprendre nous-mêmes et de mieux cerner notre rapport au monde. Ensuite, si le jeu semble aujourd'hui un sujet d'étude beaucoup moins justifié que ne peut l'être l'art, par exemple, c'est qu'il est encore beaucoup trop associé au domaine de l'enfance. On oublie alors bien vite toutes ces pratiques adultes clairement ludiques qu'on rencontre au quotidien, les sports, les jeux d'argent, les jeux traditionnels, les jeux télévisés, les jeux mobiles, etc. etc. Voire même, en poussant un peu, tous ces rituels de la société du spectacle dans lequel on baigne. Étudier le jeu, un peu plus sérieusement que ce que l'on a l'habitude de faire, c'est aussi tenter de lui donner ses lettres de noblesse. C'est, sans le sacraliser pour autant, c'est faire percevoir au reste du monde toute la richesse qu'il contient. Une richesse culturelle, une richesse artisanale, de compétences, et puis une richesse économique, bien sûr, dans un secteur en plein boom. Depuis quelques années, d'ailleurs, le jeu s'est fait sa place à l'université. D'abord anglo-saxonne, mais même aujourd'hui francophone. On parle des game studies. Les publications, les conférences, les recherches à ce sujet se multiplient. et je vous invite d'ailleurs à en prendre connaissance. Très souvent, malheureusement, ces Game Studies sont intégralement consacrés aux jeux vidéo, qui est un média plus répandu, plus riche et plus médiatique. On trouve malheureusement encore très peu d'études qui abordent le jeu de société de manière cohérente. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que je pense que c'est aussi à nous, joueuses, joueurs, de faire résonner notre passion, de prendre du recul sur nos pratiques et d'assumer toutes les questions qu'elles soulèvent. Ambassadeurs de la cause ludique en quelque sorte, et ceci avec le plus grand sérieux. Et puis, ça nous donnera toujours une bonne réponse à rétorquer à ceux qui nous reprochent de perdre notre temps. Je ne fais pas que jouer, j'étudie. Le mois prochain, nous reprenons la route en Ludin Incognita. Il reste temps à découvrir. Et d'ici là, jouez bien. Et lisez un peu quand même.
Merci à Cariat pour cette analyse. Et c'est vrai que la gamification, on en entend de plus en plus parler.
Oui.
Et c'est de plus en plus présent et pour tout et n'importe quoi.
Oui, sur le fait qu'on réfléchisse beaucoup au jeu et à la place du jeu.
Oui.
Et en fait, il y a dans sa chronique quelque chose que je trouve assez intéressant quand il dit pourquoi y réfléchir, pourquoi pas plutôt jouer ? Parce que finalement, on peut connaître le jeu par l'expérimentation, tout simplement en pratiquant. Et là, pour moi, il met en lumière vraiment une opposition entre deux conceptions complètement différentes de l'apprentissage, enfin, de la compréhension d'une chose, de l'apprentissage, entre l'empirisme qui donc implique que la connaissance va se fonder en fait sur l'accumulation d'observations, de faits mesurables. Donc ça, c'est des courants philosophiques plutôt anglo-saxons. Plutôt des philosophes anglo-saxons qui ont eu cette conception empiriste de la connaissance. C'est donc l'idée qu'on peut connaître les choses, et les comprendre uniquement par l'observation, voilà, par l'expérience personnelle. Parce qu'on est capable de les concevoir. Or, donc, effectivement, on peut se dire, et c'est assez vrai, il y a plein de choses, le soleil, il se lève tous les, enfin, on voit bien qu'on est capable de constater que le soleil se lève tous les matins, donc, on n'a pas besoin de plus pour savoir que le soleil se lève tous les matins. Mais si on a une conception plus théorique, c'est-à-dire ce que nous propose Acariat finalement, c'est donc de passer à une connaissance qui est autre que la simple observation, mais vraiment liée à la réflexion, on peut se poser la question de savoir si on peut vraiment avoir la certitude que le soleil va continuer de se lever tous les matins.
Ah mais moi je doute tous les jours.
Tu doutes tous les jours.
En fait, j'espère tous les jours qu'il reste couché, que je puisse moi aussi
je ne vais pas aller travailler. Et donc la vision théorique, plus théorique, ce qui n'est pas vraiment le bon terme, c'est plutôt une vision un peu idéaliste, c'est l'idée que la réalité en fait est fonction de l'esprit et des représentations de l'esprit et pas forcément de ce qu'on observe. Donc l'idée c'est qu'il y a des concepts et des abstractions que l'intelligence humaine en fait ne va pas être capable de concevoir, qui ne sont pas expérimentables. Un exemple, on sait parce qu'on nous l'a dit que l'univers est infini. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter par la simple observation puisque de toute façon l'esprit humain est incapable de concevoir l'infini. Donc on voit bien là peut-être la limite de l'empirisme. Qui est vraiment, et là on a plutôt des mouvements, des philosophes, les Platon, qu'on va citer à toutes nos émissions en fait. Je pense qu'on devrait lui demander de venir un jour.
Ouais, c'est ça, en invité.
C'est plutôt dans cette conception-là, ou bien des philosophes allemands. Et c'est un peu comme les jeux, il y a les jeux à l'allemande et tout. Il y a des courants. Et donc c'est un peu ça. Donc bien évidemment, on peut juste se contenter de jouer et dire qu'on va comprendre et connaître le jeu en jouant. Ça, c'est une certitude. Et pourtant, on comprend vite que ce n'est pas suffisant pour comprendre vraiment ce qu'est le jeu, au-delà de l'expérience personnelle qu'on en retirera en jouant. Voilà.
Ouais, le fait qu'on étudie aussi sérieusement le jeu, ça montre bien que le jeu est un objet culturel.
Oui.
Et là, on vous renvoie vers... l'émission précédente de Au coin de la table qui nous parle justement de est-il un objet culturel.
Exactement, et qui nous parle de cette thématique et un sujet qui est quand même assez de plus en plus discuté, ce qui permet aussi de faire la promotion aussi du jeu comme une véritable activité
pas que pour les enfants.
Et qui suscite de la réflexion, parce qu'il y a beaucoup de choses... on en parle juste avant, on parlait du fait que ça puisse provoquer des émotions qui étaient quand même assez fortes. comme beaucoup d'autres arts, hein, comme la musique, comme le cinéma, comme la littérature. Enfin, on voit bien qu'on est dans un mouvement où on réfléchit beaucoup plus sur le jeu qu'avant.
Avant, on réfléchissait juste à vendre des jeux. Maintenant, on réfléchit à faire des jeux aussi intelligents.
Oui, puis il y a aussi peut-être un public qui est aussi plus mûr pour ça. Enfin, peut-être aussi... parce que finalement, le jeu a toujours existé, mais peut-être que le jeu aussi aboutit autant presque idéalisé. Enfin, on voit bien qu'on est quand même dans une idéalisation du jeu. On aimerait tous trouver le jeu parfait. Donc, c'est aussi une maturité des joueurs, de la réflexion. Enfin, je sais pas, il y a peut-être aussi de ça... Et je pense aussi que le jeu vidéo a beaucoup été, enfin, a un peu pris toute la place. Et déjà, le jeu vidéo était un peu plus avancé sur cette reconnaissance que le jeu de société. Mais parce que je pense aussi qu'il s'adresse à un plus large public. Donc, l'impact est plus grand.
Ouais. Bah, c'est un plus large public parce que c'est plus facile d'accès que le jeu de société. Quoi. Il n'y a pas de règles à lire.
Il n'y a pas de règles. Tu y joues très facilement. Même s'il y a des jeux solo, tu y joues quand même beaucoup plus facilement seul. Tu peux t'arrêter et sauvegarder. Je pense aussi qu'il y a ça, c'est un. Ouais. Tu peux jouer 10 minutes comme tu peux jouer 5 heures. Enfin, il y a ça qui est aussi parfois compliqué pour certains jeux, c'est d'avoir le bon. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la durée des jeux, c'est quand même un peu réduite. Parce qu'il y a un impératif des gens qui ne sont pas toujours totalement disponibles. Donc. Après, il y a aussi une réalité qui est que le jeu vidéo s'adresse à beaucoup plus de monde et tu trouves vraiment de. Enfin, dans le jeu de société, c'est pareil aussi, mais tu trouves vraiment des choses qui sont très très vendues et qui sont très très mauvaises, tu vois.
Donc le jeu vidéo, alors ils ont leur monopoly aussi, quoi.
Ils ont leur monopoly
leur
aussi.
Leur monopoly.
Oui, il y a quand même des jeux qui sont très très mauvais, enfin, et qui sont vraiment pas terribles et qui arrivent à avoir une aura assez incroyable, ou même sans être très mauvais, des jeux qui sont très surestimés. Alors que d'autres jeux très bons vont pas du tout, enfin vont être vraiment peu cités au niveau du grand public, hein, je pense.
Mm-hmm. Ouais.
Je vais pas dire le nom de jeu parce que.
Il y a. Bah si, justement, moi j'attendais que tu dénonces
que
des
je
jeux.
Balance. Hein.
Que dans le jeu vidéo, il y a toute une il y a les gros studios qui produisent les gros jeux vidéo. Mais il y a aussi toute une scène indépendante qui produisent des jeux aussi innovants. Et c'est un peu... c'est pas comparable avec le jeu de société, quoi. Mais il y a un peu aussi... nous aussi, on a un peu les gros Hasbro et qui nous font des Monopoly et des pipi parties qui vont se vendre au supermarché par milliers d'exemplaires, et à côté de ça un éditeur qui sera tout seul à faire son jeu. C'est les mêmes rapports de force, quoi, en fait.
Et après t'as aussi des gros studios qui arrivent à faire de très bonnes choses. Beaucoup de jeux se ressemblent, enfin, il y a quand même beaucoup de jeux qui se ressemblent, enfin, dans le jeu vidéo, si tu regardes bien, il y a quand même des choses qui sont très semblables. C'est d'avoir des choses vraiment très très originales, c'est pas si évident que ça. Enfin, il y en a, hein, des jeux qui vont un peu à contre-courant. Mais déjà, il y a une différence entre ceux qui jouent que sur console et ceux qui vont jouer sur PC. C'est pas déjà les mêmes publics, enfin, je pense que c'est pas les mêmes publics et pas avec les mêmes exigences.
Ouais, mais les gens qui jouent sur console, c'est pas des vrais joueurs, c'est tout.
Ah, vas-y.
Allez, c'est bon, je me suis...
Ah là là, comme c'est méchant.
Je me suis mis la moitié des auditeurs à dos, je crois. Bah,
moi, je ne joue que sur console, hein, j'avoue. Hein.
J'ai déjà
du mal à brancher parfois la batterie de l'ordinateur. Alors si en plus je devais mettre des trucs, non mais je ne m'en sortirais pas. C'est vraiment une question de technologie. Je me dis, la console, c'est facile à allumer.
Ouais, c'est ça. Oui, mais la maniabilité à la manette, il y a certains jeux qui sont pas faits pour ça, je pense.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Enfin, après, on s'habitue à tout.
Oui, moi j'aurais du mal à jouer au clavier, je pense. Après, il y a des vieux jeux auxquels j'aimerais bien rejouer, mais bon, je sais qu'on peut les retrouver, mais au clavier, je me verrais plus jouer. Je trouve que c'est plus possible, c'est plus de mon âge, ce genre de folie.
Ça te rappelle trop le travail, le clavier, c'est ça.
Ouais, c'est ça, en fait. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, mes enfants pensent que je joue à des jeux pétés, que je travaille devant un ordinateur, et pensent que je joue toute la journée. Ce serait bien si c'est possible, mais bon. Tu vois, quand tu en as marre et tout, pour faire une petite pause, hop, tu switches et hop. Enfin, pas pour Nintendo, mais...
On va, donc, le mot de la fin, donc, c'est jouer au bureau, c'est ça qu'il faut...
Ouais,
ça,
c'est jouer ça bien au bureau. Aussi au bureau.
Ok. Bah, sur ces belles paroles,
oui.
On va vous laisser...
méditer.
On va vous laisser méditer, voilà, c'est... Ces belles paroles et jouer à votre travail. Déjà, vous écoutez votre podcast au travail. Si en plus vous jouez, vous avez pas.
Ouais, ça va finir par se voir.
Vous allez vous faire capter. que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-nous le savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. Donc laissez-nous un commentaire, on y répondra et on parlera de vous dans le prochaine émission sûrement. Vous trouverez sur notre site toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook.
Et notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout, parlez de nous autour de vous.
Donc on se retrouve le mois prochain et en attendant,
jouez bien.